Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, bonsoir Sidonie. Comme tous les soirs, on est ensemble jusqu'à 22h pour vous raconter des histoires extraordinaires, pour partager le destin des aventuriers, des voyageurs et pour voir que parfois, le merveilleux est juste là au coin de la rue ou du chemin, n'est-ce pas Sidonie?
Bah d'ailleurs, c'est merveilleux. Merci pour les chocolats, Thomas.
Oui.
Vous allez oublier, vous allez l'oublier, mais bien sûr.
Encore une
fois. Comme à chaque fois.
Je suis impardonnable, mais
bonsoir,
bon, c'est pas grave.
Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus dans la curiosité. Donc pas de chocolat pour moi, mais une bonne émission ce soir pour vous. Au programme ce soir, un de nos sociétaires, Marc Giraud, il lui suffit de sortir de chez lui, d'entrer dans un champ ou une forêt. Et là, en observant les animaux et la nature, il nous ramène des histoires incroyables. Aujourd'hui, on va parler de la sexualité des petites bêtes qui nous entourent.
Et du coup, il y a cette musique suave qui nous accompagne.
Même pour les petites bêtes.
Et puis, on vous emmène tout à l'heure dans un pays qui n'existe pas. Pourtant, la Transnistrie a une frontière et un hymne national. On ne s'en lasse pas, on s'est levé. Évidemment, ses habitants ont un passeport, mais les Nations Unies ne reconnaissent pas ce pays. Bref, aux yeux du monde, la Transnistrie n'existe pas. Et tout de suite, en ce lundi de Pâques, bienvenue dans la ville des miracles.
Depuis 1856 qu'est apparue ici la Vierge pour la première fois, des millions de fidèles maintenant chaque année viennent ici.
La curiosité est un vilain défaut.
Certains bien sûr pour prier, d'autres pour remercier et certains pour tenter d'être guéris.
Jusqu'à 22h,
prier pour la conversion des pécheurs.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pour clore ce week-end de Pâques, nous allons donner la parole à un médecin pas comme les autres. Bonsoir François-Bernard Michel, bienvenue.
Merci.
Vous êtes pneumologue, spécialiste de l'asthme et des allergies et vous co-présidez le comité médical international de Lourdes. Votre boulot, c'est donc de valider les miracles, c'est ça ?
Valider les guérisons exceptionnelles et médicalement inexplicables à l'état actuel de la connaissance scientifique et statistique. Car c'est difficile de définir une guérison, aujourd'hui une guérison miraculeuse. D'ailleurs, ce n'est pas nous, le comité médical, qui dit prononçons le mot de miracle.
C'est pas vous n'aimez pas ce mot-là, enfin, vous n'êtes
oui,
pas habilité
c'est pas
à le prononcer.
Nous c'est parlons ça, c'est... de médecine oui. Et de guérison.
Voilà.
Alors, le mot de guérison lui-même a complètement changé durant ces dernières années. Il n'a plus rien à voir, évidemment, avec 1858.
Parce 1858, que c'est l'apparition
c'est
la
première apparition de la Vierge Marie.
À Bernadette Soubirous. On en parlera et on racontera la vie de Bernadette.
Voilà. Parce que aujourd'hui, il n'est pas un malade qui n'est pas un cancéreux, qui n'a pas eu de chimio, une maladie inflammatoire qui n'a pas eu de corticothérapie. Donc notre tâche est délicate parce que est-ce que c'est la chimio qui a guéri, est-ce que c'est la Vierge Marie, est-ce que c'est les deux. Enfin, si vous voulez, nous avons un devoir de précision scientifique aujourd'hui.
Comment il fonctionne ce comité de médical à Lourdes?
Alors, il se réunit au deuxième rideau, c'est-à-dire que dans un premier temps, des personnes vont au bureau médical des constatations dire, voilà, j'ai été guéri, je suis guéri à Lourdes. Alors, il y a une quarantaine d'observations à peu près qui répondent à cette situation.
Par an?
Par an. Mmh. Sur ces 40, il y en a une dizaine qui méritent réflexion. Et sur cette dizaine, il y en a deux ou trois qui peuvent parvenir jusqu'au stade de notre comité. C'est-à-dire qu'il y a un dossier médical avant la déclaration de guérison et après qui permettent donc une comparaison.
Est-ce que des prêtres font partie de ce comité de validation des guérisons spontanées ?
Non, il n'y a pas de prêtres, il y a des médecins, mais il y a un évêque, c'est celui de Tarbes et Lourdes, qui par définition est coprésident du comité, mais il vient s'asseoir bien sagement et il ne discute pas les diagnostics, il n'influence pas non plus les médecins.
Nous c'est ça que j'allais vous demander, est-ce que la hiérarchie catholique est un peu demandeuse de ces miracles ? Ça fait une bonne pub pour la religion.
Alors pas du tout, non seulement la hiérarchie ne demande pas, mais elle est plutôt réticente, si bien que j'ai dû écrire à des évêques récemment, en leur disant, écoutez, nous les médecins, on travaille, on regarde des dossiers, etc. Si ça ne vous intéresse pas, il faut le dire. Là, je caricature un petit peu, mais c'est vrai que les évêques ne courent pas après. Pourquoi ?
Ils regardent ça un peu de haut ? si j'ose dire.
Non, non, il redoute la médiatisation ouais. et tout ce qu'on va faire autour de la personne.
Alors dans ce comité, il n'y a pas de prêtre. En revanche, est-ce que les médecins, comme vous, sont croyants dans ce comité de validation des guérisons spontanées ?
Oui, dans l'ensemble, oui, mais ce ne sont pas des chercheurs de miracles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour, à tout prix, au contraire, il y a des ayatollahs qui cherchent toujours l'objection pour ne pas retenir telle ou telle observation de guérison que nous jugeons exceptionnelle.
Et vous, vous êtes croyant, François-Bernard Michel ?
Moi-même, je le suis, mais je ne mélange pas ma foi, je ne distingue ma foi et la fonction qui nous est donnée. On n'est pas là pour produire du miracle. On est là pour dire si telle guérison rapportée par une personne a un caractère exceptionnel et inexplicable.
Mais justement, docteur Michel, cette année, j'imagine, ce que vous nous décrivez, ce sont presque des débats entre médecins, entre scientifiques. Est-ce qu'ils sont parfois enflammés ? Est-ce que cette année, vous avez débattu d'un cas particulièrement surprenant, étonnant pour des médecins ? Et est-ce que vous êtes en train de peut-être le qualifier de guérison spontanée ?
Absolument, vous êtes tout à fait dans la situation présente. Madame Castelli est une jeune femme italienne qui souffre d'un phéochromocytome.
Oula, c'est quoi ça ?
Je passe très vite, c'est une tumeur des glandes surrénales,
ouais.
dans laquelle la sécrétion des glandes surrénales est très augmentée, et ça a pour conséquence de donner des accès d'hypertension artérielle. La pression maximale monte à 28-15, alors avec le danger évidemment d'hémorragie cérébrale.
Mmh.
Bien, cette dame, donc, on porte le diagnostic, on l'opère et on cherche la tumeur des surrénales. Le problème, c'est qu'elle n'est pas toujours sur les glandes surrénales, elle est quelquefois le long des ganglions, des chaînes lombaires, et les chirurgiens italiens n'ont pas trouvé la tumeur. Ce qui est sûr, c'est que cette dame, donc, est très exposée. Son mari est médecin, il va l'amener à Boston pour une consultation, parce qu'on n'a pas trouvé de solution en France. Elle dit, ben d'accord, mais je vais passer à Lourdes d'abord. Et après son pèlerinage à Lourdes, elle n'a plus d'accès d'hypertension artérielle.
Et c'était quand ça, son passage à Lourdes ?
Alors c'était il y a 10 ans. Alors vous allez me dire, pourquoi avoir attendu 10
c'est
ans
très long.
Parce que justement nous sommes très sérieux et il nous manquait la lésion anatomique sous le microscope de la tumeur de cette personne. Alors nous avons beaucoup hésité, nous avons beaucoup discuté, nous avons renvoyé le dossier plusieurs fois. Et puis à la fin il nous a semblé que la suppression spontanée des accès d'hypertension artérielle qui était terrible, cette femme souffrait énormément, jointe au taux sanguin de catécholamine, et catécholamine, c'est les produits de la sécrétion de ces tumeurs, joint au taux sanguin élevé, suffisait pour admettre le caractère exceptionnel de la guérison. Et nous avons donc retenu cette observation.
Quelle est l'action de Lourdes dans cette histoire alors ?
Alors c'est la bonne question. L'action de Lourdes, c'est sûrement une démarche de foi. Évidemment, vous ouvrez complètement le débat. Je ne sais pas si on peut y aller tout de suite.
Nous ne sommes qu'au début.
Toute guérison mobilise à l'intérieur d'une personne des forces, soit spontanées, soit suscitées par les médicaments. Qu'est-ce qui différencie les guérisons de Lourdes ? Si vous prenez sur Internet la littérature médicale internationale, vous trouverez toujours une observation de guérison spontanée, de ouais. cancer, de ceci, de cela, de telle ou telle maladie. C'est connu depuis Hippocrate, les guérisons des maladies.
Et donc la différence, c'est que cette dame est allée à Lourdes dans une démarche religieuse,
absolument.
C'est ça ?
La différence, vous l'avez dit, c'est que cette guérison s'inscrit dans une démarche de foi. Et la foi, c'est une affaire de désir. Les gens qui étaient guéris par Jésus sur les chemins de Palestine, c'est des gens qui avaient le désir plus que d'autres de guérir. Donc il est probable que la foi passe par cette mobilisation des forces personnelles d'une malade.
Et on va continuer de raconter à la fois d'autres histoires de guérison spontanée. Il y en a eu très peu, vous nous direz combien, depuis plus d'un siècle, un siècle et demi. Et puis on va raconter aussi l'histoire de Bernadette Soubirou. Restez avec nous.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. Vous écoutez RTL. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. La curiosité est un vilain défaut. RTL.
La curiosité avec François-Bernard Michel, médecin, pneumologue et co-directeur du Comité médical international de Lourdes, chargé d'étudier les cas de guérison spontanée. En fait, nous, on appelle ça tout simplement des miracles. Enfin, c'est pas si simple que ça. Vous présidez ce comité depuis 10 ans, docteur Michel. Mais votre histoire est liée depuis toujours à celle de Lourdes. Racontez-nous pourquoi.
Parce qu'il se trouve que je suis croyant congénital et que ma famille m'a amené à Lourdes assez précocement. Et il est évident que dans ce lieu, dans cet espace de la grotte, on est assez imprégné par une atmosphère un peu surnaturelle. Et je dois vous dire une confidence. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais agacé par ces pèlerins qui veulent à tout prix faire le tour à l'intérieur de la grotte pour toucher le rocher. Mmh. Alors, je trouvais qu'il y avait là une espèce de fétichisme qui était un peu douteux, disons, discutable. Et en fait, non, je pense que ces gens, il faut les féliciter. Pour eux, c'est un endroit, cette grotte, où le divin a touché la terre. Et ils veulent passer leurs mains sur le lieu, n'est-ce pas ? Ils veulent s'incruster dans ce lien qui s'est produit une fois entre le divin et la terre, c'est-à-dire Bernadette Soubirous.
Mmh. Mais vous, docteur Michel, vous étiez malade quand vous étiez petit, c'est ça ?
Non, grâce à Dieu, j'ai pas eu de... Je n'étais pas là comme...
Ce que vous racontez dans votre livre, ouais. À Lourdes, Dieu touche terre, vous dites que vous, oui. À 18 mois, vous étiez...
Vous faites allusion, quand vous étiez tout petit.
Oui. Vous oubliez votre miracle à vous, alors.
J'ai failli mourir, mais c'est tellement une affaire racontée.
C'est un détail, bien sûr.
Tellement une affaire racontée qu'elle n'est pas vécue.
On vous l'a raconté.
C'est mes parents.
Donc c'est vos parents qui vous ont raconté.
Mes parents qui m'ont dit qu'à 18 mois, j'ai failli mourir de ce qu'on appelait à l'époque le croup, qui est la diphtérie. C'est une maladie qui faisait des fausses membranes à l'intérieur du larynx. À l'époque, on n'avait pas de médicaments. Et donc, à l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon, il paraît que j'ai failli mourir. Vous avez bien fait de me le rappeler.
Mais est-ce que vos parents vous ont amené à Lourdes à cette époque-là ?
À cette époque-là, non, pas du tout.
À quel âge vous y êtes allé pour la première fois ?
J'ai dû aller à l'âge de 14 ou 15 ans. Oui.
D'accord.
Oui.
Et vous avez été touché par l'esprit de ce lieu, c'est ça ?
Oui, je pense qu'il y a, un esprit particulier. L'idée que là, ceux qui croient, alors on a deux sortes d'auditeurs, là, si vous voulez bien ce soir, des incroyants qui s'informent comme ça, et puis des croyants. Mmh. Alors pour le croyant, il s'est produit un jour dans l'histoire de l'humanité un phénomène curieux qui s'appelle l'incarnation, que j'aime bien appeler incarnation, c'est-à-dire un jour Dieu s'est fait chair. Pour le croyant, c'est la personne du Christ qui a réalisé cette incarnation. Et si on y croit, l'incarnation, ce n'est pas un phénomène isolé comme ça, une période de l'histoire, c'est tous les jours. L'incarnation, c'est aujourd'hui, c'est tous les jours où Dieu participe à notre monde, s'insère dans notre vie de tous les jours, dans les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Sinon, vous connaissez la formule de Prévert, « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y ». Et c'est vrai que si notre Père est au ciel comme ça, éthéré, que je ne le vois jamais, sinon c'est la figure d'un barbu, ça ne m'intéresse pas du tout.
Mmh. Docteur Michel, vous êtes médecin, vous êtes croyant. Pourquoi la science, pour vous, la médecine sont compatibles avec la foi ?
Parce que ce sont deux domaines, deux champs absolument différents. Il y a d'un côté la science, et elle est hautement respectable, et tous ces progrès doivent être écoutés, encouragés, pris en compte, etc. Et puis à la foi. La foi, ça ne veut pas dire qu'elle est irrationnelle, ça ne veut pas dire que la foi, on croit à n'importe quoi. Mais je n'ai pas, moi, croyant, à convoquer Dieu au tribunal de ma raison. C'est-à-dire, je n'ai pas à demander à Dieu, prouvez-moi que vous existez. Dieu me dit, il a dit à Job, tu crois ou tu ne crois pas, c'est comme tu veux.
Oui, mais dans ce travail, pardon, Sidonie, au comité médical à Lourdes,
oui.
Quand même, vous venez de nous expliquer que pour le cas qui a été reconnu en 2013 de cette Italienne, c'est ça ?
Oui.
Vous avez quand même considéré que la foi avait joué un rôle, donc vous liez bien les deux. Dans le fait de considérer qu'il y a une guérison spontanée.
Alors, comme médecin, j'ai estimé que la guérison de cette madame, de son phéochromocytome, était inexplicable dans l'état actuel de la connaissance.
Donc ça veut dire que la foi est plus forte que la médecine ?
Non, non, non.
Parfois,
ça veut dire que là, j'étais le médecin qui disait la littérature médicale internationale ne me montre pas d'observation comme de guérison spontanée comme celle de cette femme. Voilà, ça c'était le médecin. Et puis après, ma foi à moi me dit oui, c'est sûrement une intervention du surnaturel. Mais je ne mélange pas les deux. Et comme je préside l'Académie nationale de médecine, je ne suis pas schizo, c'est-à-dire je suis rationnel à la rue Bonaparte et irrationnel à Lourdes. Et j'ajoute un mot à propos des évêques qui étaient des demandeurs de miracles. Pas du tout. L'un des grands, le fondateur du Comité médical international, un des grands évêques de Lourdes, Monseigneur Théas, a dit au comité, celui qui a créé le comité médical, il a dit aux médecins, écoutez, moi je ne veux pas me mêler de médecine, apportez-moi des faits, dites-moi ce à quoi je dois croire et pas croire. Et si vous permettez une minute de plus...
C'est intéressant d'avoir un évêque qui dit ça.
Oui, et si vous permettez une minute de plus, dès le départ, ce qui a caractérisé Lourdes, c'est que les médecins et les gens de foi ont travaillé ensemble. Alors là, je vais faire un petit cocorico montpelliérain, puisqu'il est de ma faculté. Le pionnier des reconnaissances médicales à Lourdes, c'était un professeur de ma faculté de médecine, le professeur Vergès, qui est parti de la fac, qui a démissionné de Montpellier parce qu'il a estimé qu'on lui avait fait un coup tordu, et il est retourné dans sa région de Tarbes. Et c'est à lui, ce professeur Vergès, que l'évêque de Lourdes du moment de Bernadette, Monseigneur Laurence, qui a une sale gueule lorsqu'on le regarde, c'est pas rigolo, lui a dit, écoutez, moi on me parle de guérison à Lourdes, etc. Qu'est-ce que c'est ce truc? Vous allez vous occuper de ces dossiers.
Mais au fait, depuis quand Lourdes est-il un lieu de pèlerinage et comment vous en parliez, docteur Michel? La petite Bernadette Soubirous a-t-elle convaincu l'Église qu'elle avait bien vu la Vierge Marie? On répond à toutes ces questions ce soir sur RTL.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France.
Lourdes, gros bourg pyrénéen de plus de 16 000 habitants, figure parmi les quatre sanctuaires les plus visités du monde, avec Rome, Guadeloupe et San Giovanni Rotondo, où vécut Padre Pio, un capucin stigmatisé.
Jusqu'à 22h, la curiosité est un vilain défaut.
Le sanctuaire de la Basilique attend 6 millions de visiteurs et pas moins de 500 pèlerinages.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et ce soir sur RTL, on vous raconte l'histoire des miracles à Lourdes, ou plutôt des guérisons spontanées, comme le dit notre invité, le docteur François-Bernard Michel, qui est co-directeur du Comité médical international de Lourdes. Vous êtes donc médecin, pneumologue, spécialiste de l'asthme et des allergies. Est-ce lié, docteur Michel, à l'histoire de Bernadette Soubirous, qui elle-même souffrait d'asthme?
Oui, c'est une coïncidence.
Vous n'avez pas choisi cette spécialité en référence
non,
à son histoire?
Non, là vraiment non.
D'accord. Quel âge a-t-elle, Bernadette,
alors,
quand elle voit sa première apparition?
C'est une gamine, c'est inculte. Lorsque le juge lui demande son âge, elle ne sait pas très bien si elle a 13 ou 14 ans. Lorsqu'on lui demande son nom, elle a tendance à donner le nom du moulin où elle habite. Donc, c'est, socialement parlant, c'est le sous-prolétariat. Hein,
On est en 1858.
On est en 1858. Elle est chétive. Hein, elle a fait sûrement une primo-infection assez sévère. Sa famille est sociologiquement très défavorisée. Il y a une fratrie, il y a eu 6 enfants. Il y en a 4 qui sont morts en bas âge. Hein. C'est pas la joie. Le père est meunier. Alors, selon la saison, il y a du blé à moudre ou il n'y en a pas. Et puis alors, on l'a soupçonné de vol. Il a été amené par les gendarmes. Après, on l'a innocenté, mais enfin, ça la fout mal dans une petite ville. Donc, la famille Soubirous, elle est suspecte. Hein, dès que la petite va aller dire « je vois la Sainte Vierge », ça la fout mal.
Oui. À qui le dit-elle d'ailleurs, Bernadette Soubirous? La première fois, quand elle voit la Vierge, elle en parle à qui?
Alors, elle en parle à ses copines en disant « il ne faut pas le dire ». Évidemment, les copines s'empressent de le dire. Mais elle en parle surtout au vicaire de Lourdes, qui est un brave type, qui n'a pas d'emblée, qui l'a pas traité de folle, etc. En revanche, le curé de Lourdes, l'abbé Péramal, c'est un drôle de bonhomme, une énorme carrure et sa soutane noire, etc. Il fait peur. D'abord, Péramal, ça doit vouloir dire mauvaise pierre, oui. Et alors, un beau jour, il s'énerve, ce curé. Il lui dit, mais en fait, tu commences à m'agacer avec tes apparitions. Tu sais même pas le nom de cette dame. Demande-lui son nom.
Parce qu'au début, elle voit une silhouette, c'est ça?
Mais voilà. Alors elle commence tout. Par Aquero.
Et elle ne dit pas que c'est la Vierge au début,
non,
c'est
non,
ça?
Non. Parce que le juge lui dit, alors tu as vu la Vierge Marie? Ah non, j'ai vu en languedocien, elle a dit, j'ai vu Aquero. Et alors Aquero, c'est un mot que je connais très bien, parce que je connais un peu languedocien. Vous savez, quand quelque chose, on ne sait pas, on dit Kedako. Ou alors quand on voit une personne qui passe dans la rue du village et qu'on... Kawedakelo, ça veut dire qui c'est celle-là?
Voilà. Donc Bernadette Soubirous voit une forme, elle ne sait pas qui c'est,
voilà,
elle est intriguée.
Elle dit, j'ai vu ça, d'abord elle a vu ça. Puis elle dira, j'ai vu la damisello, parce que ça a une forme un peu de jeune fille.
Vous dites le juge, parce qu'elle est passée...
Alors elle a été la malheureuse harcelée, oui, elle a été harcelée par le juge, le commissaire, le député, tout le monde.
Vrai. On la croit folle.
On la croit folle et on la menace. Si tu continues à dire que tu vas à la grotte, tu vas aller en prison. Enfin, c'est très sérieux, elle lui fait peur. Alors ce qui est merveilleux, cette fille qui est inculte, qui n'est pas foutue d'apprendre le catéchisme de la communion privée, c'est qu'elle n'a pas peur. Et devant tous ces gens-là qui en imposent, elle ne variera jamais dans ses déclarations. Elle a fait le récit des apparitions une fois. Elle refusera de dire que c'est pas vrai, qu'elle ment, etc.
Docteur Michel, je vais faire mon mécréant. Elle était peut-être épileptique, Bernadette Soubirous, parce que les épileptiques, dans certaines crises, ils ont comme ça des apparitions, des images qui leur viennent, on ne sait d'où.
Bien sûr. Alors, on n'a pas manqué d'évoquer la maladie. Et évidemment, on est allé chercher des médecins. Car lorsqu'on est un peu en panne, on fait appel aux médecins, ça peut toujours servir. Alors, les médecins, ils se sont réunis. Et ils sont très embêtés parce que cette petite, elle n'est pas malade, elle se plaint de rien, etc. Alors ils concluent que l'examen clinique est négatif, bon, ça veut dire qu'elle n'est pas folle, mais enfin ils sont un peu embarrassés parce qu'on les a envoyés pour dire qu'elle était folle, oui.
Ça prendra du temps, pardon Sidonie, de reconnaître finalement ces apparitions et de reconnaître Bernadette Soubirous comme celle qui a vu la Vierge.
Ben, ça prendra beaucoup de temps pour ceux qui n'y ont jamais cru et qui aujourd'hui encore ne le croient pas. Ça prendra 2 ans pour cet évêque de Lourdes dont je vous parlais, Monseigneur Laurence, car lui aussi il est en position difficile. On commence à lui demander, alors chez toi, dans ton diocèse, il paraît qu'il se passe des choses, etc. Il ne sait pas trop ce qu'il doit croire. Alors il réunit une commission avec des médecins, des prêtres, etc. Après d'avoir écouté Bernadette, etc., il conclura ce brave évêque que c'est sérieux. Quand elle est apparue à Bernadette, Marie n'a jamais parlé de maladie, de malade, de guérison, etc. C'est les gens du quartier qui, voyant qu'elle avait fait surgir une source qui n'existait pas dans la grotte, on dit « Oh, mais on pourrait se servir de cette eau, peut-être elle est miraculeuse. »
C'est comme ça qu'on se dit que Lourdes...
Alors c'est comme ça qu'on est arrivé aux guérisons, aux pèlerinages, aux maladies, etc.
Mais ça c'est tout de suite dans les années qui
suivent.
Tout de suite. Parce qu'évidemment, la rumeur de ces apparitions, elle fait le tour de la ville, de la région.
Très vite, c'est un monsieur qui s'appelle Louis Bourriette qui, en faisant éclater des mines dans une carrière, a vu son frère tué par l'éclat de mine et lui-même, il a eu une moitié du visage très abîmé. En tout cas, il a perdu un œil.
Docteur Michel, vous parliez de cette eau de source. Elle est particulière, cette eau que Marie dit à Bernadette de boire ?
Absolument pas. C'est comme, je dirais, l'eau du robinet si elle n'était pas chlorée.
Quelle déception !
C'est une eau absolument naturelle. Elle a été analysée. Donc là aussi, on voit bien que c'est la dimension de foi qui fait que cette eau peut guérir, c'est pas ses caractères physico-chimiques.
Alors vous avez commencé à nous raconter le premier cas en fait de guérison spontanée, de miracle, l'histoire de cet ouvrier qui travaillait de ce tailleur de pierre. On va continuer de raconter cette histoire et d'autres cas de guérison spontanée. Restez avec nous sur RTL.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. 20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Et ce soir, dans La curiosité est un vilain défaut, on vous emmène à Lourdes pour découvrir le travail du Comité médical international que vous codirigez, François-Bernard Michel. Je rappelle que vous êtes médecin, pneumologue et que vous publiez ce livre chez Bayard à Lourdes, Dieu touche terre. Vous évoquiez tout à l'heure l'histoire du premier miraculé en quelque sorte.
Oui.
Donc on est à quelle époque? On est quelques années après la révélation de Bernadette Soubirous?
Pas du tout, on est dans les semaines suivantes.
Très très vite.
Oui, il y a des gens qui tout de suite ont cru qu'il se passait des choses surnaturelles dans la grotte. Et la sœur de Louis Bourriette, cet ouvrier carrier, est allée chercher de l'eau à la grotte, elle l'a passé sur les yeux de son frère.
Donc il avait été blessé, il ne voyait plus, c'est ça?
Il avait perdu un œil, elle lui a passé de l'eau, et dans les jours qui ont suivi, il a recouvré la vue. Alors, il y a eu du scepticisme, parce qu'il y a des médecins à Lourdes, etc. Et le professeur Vergès, dont je vous parlais il y a un instant, a repris un jour l'ensemble du dossier. Il a estimé que cette possibilité de récupérer la vision binoculaire était une guérison sans explication, inexpliquée.
On va raconter d'autres cas de guérison. C'est la fin là, ce soir du week-end de Pâques. Est-ce que c'est un moment de pèlerinage traditionnel à Lourdes? Il y a toujours beaucoup de monde au week-end de Pâques?
Oui, il y a du monde, mais ce n'est pas un des sommets de l'année.
Le pic, c'est le 15 août, forcément?
Le pic, c'est le 15 août avec ce qu'on appelle le pèlerinage national, c'est-à-dire toute la France qui est concernée. Et puis, il y a...
Pour la fête de l'Assomption.
Voilà.
La fête de la Vierge.
La fête de la Vierge, oui. Puis, il y a le pèlerinage du Rosaire au mois d'octobre, organisé par les pères dominicains. Et puis, il y en a sans interruption jusqu'au mois de décembre.
Docteur Michel, rappelez-nous le nombre de miracles, de guérisons spontanées qu'il y a eu depuis 1858.
Alors, il est relativement peu élevé. Il est de 69. Et c'est peu par rapport aux millions de malades qui sont allés là-bas. Et moi, en même temps, je suis satisfait de ce petit effectif parce que ça prouve bien qu'on est quand même rigoureux dans la reconnaissance de ces guérisons exceptionnelles. Il faut préciser aussi qu'il y a eu des périodes blanches, c'est-à-dire des moments pendant les guerres, pendant certaines périodes, où le bureau des constatations médicales n'a pas fonctionné. On n'a pas eu des dossiers ou des bons dossiers. Et donc, il y a des périodes où les guérisons n'ont pas été enregistrées. D'autre part, le nombre réel de guérisons est infiniment supérieur à 69, car il y a beaucoup de gens qui ne vont pas parler de leur guérison. Il y a beaucoup de gens dont le comité médical ne reconnaît pas la guérison. Ça nous chagrine parce que ces personnes-là sont contrariées. Mais d'un autre côté, nous devons expliquer que nous avons des critères médicaux très stricts.
Alors justement, ce qui est intéressant, évidemment, c'est de raconter l'histoire de ces guérisons spontanées. Vous en racontez de nombreuses dans votre livre aux éditions Bayard, à Lourdes, « Dieu touche terre ». Alors, est-ce que Dieu a touché Vittorio Micheli? C'est le 63e miraculé. De quoi souffrait-il?
Alors, c'est une observation qui, pour moi, est très importante parce que je connais l'intéressé. J'ai connu les gens qui se sont occupés de son dossier, de son observation. Alors, il souffrait d'un ostéosarcome de la hanche, qu'on appelle en termes médicaux une tumeur des wings. Cette tumeur, on l'a biopsiée, on l'a eue sous le microscope. Les chirurgiens, très légitimement, ont proposé aux parents d'amputer ce garçon, car à l'époque, c'était le traitement radical. Et les parents ont dit non, pas d'amputation, tant pis, quelle sera l'évolution, on ne veut pas couper la jambe de notre fils. Alors, il est allé à Lourdes.
Je vous interromps, on est à quelle époque à peu près?
Alors, je pense que c'est dans les années 60, d'accord. 70. Il souffrait beaucoup, ce garçon. Il souffrait atrocement. Et après un pèlerinage à Lourdes, peu à peu, les douleurs se sont estompées. Et l'évolution radiographique a montré que la tumeur s'était estompée. Alors, c'est un dossier qui m'est cher parce que l'un de mes confrères de l'Académie nationale de médecine, le professeur Nezeloff, c'est lui qui a vu l'anatomie pathologique des lésions. Or, M. Nezeloff, c'est un excellent confrère, mais il est tatillon, méticuleux, pointilleux. Et quand je préside, il est insupportable parce qu'il n'arrête pas de poser des questions. Il n'est jamais content du diagnostic, oui. Il n'a jamais assez de preuves, etc. Alors, si lui me dit qu'il y avait une tumeur et qu'il n'y en a plus, là, je le crois, oui, je le crois. Et je pense donc que ce garçon a guéri d'une tumeur maligne.
Que la science ne peut expliquer.
Que la science ne peut expliquer, car on a fait appeler des experts, en particulier des membres de l'OERTC, c'est l'Office européen des tumeurs sarcomateuses, qui a confirmé qu'il y avait bien eu une tumeur sarcomateuse de la hanche et qu'elle avait guéri.
Je ne sais pas à quelle date cette guérison spontanée a été reconnue, peut-être quoi, une quinzaine d'années après, dans les années 80.
Oui.
Donc là, on est encore 25 ou 30 ans plus tard.
Oui.
Est-ce que la science d'aujourd'hui ne permet pas d'expliquer cette guérison? Vous voyez ce que je veux dire? La science progresse, forcément. Il y a peut-être des guérisons reconnues comme miracles il y a 30, 40, 50 ans qui aujourd'hui seraient expliquées par la science.
Vous êtes absolument pertinent. C'est sûr que si je prends toutes ces 69 opérations, j'en écarterai, j'en éliminerai peut-être quelques-unes, parce qu'aujourd'hui, scientifiquement parlant, je pourrais dire qu'elles ne sont pas démontrées. Mais celle-là, justement, elle me plaît parce qu'elle est probante et qu'elle est assez bien démontrée. Oui. Celle-là, non, il ne faut pas la jeter aux orties.
D'accord, donc ce cas, le 63e miraculé, c'est l'un de ceux auxquels vous croyez le plus. Peut-être un dernier, l'histoire de Delizia Ciroli. C'était une enfant de 12 ans, on est en mars 76. Elle souffre quoi, d'une douleur au genou, c'est ça, docteur Michel?
Oui, absolument, c'est une tumeur osseuse aussi. Et même situation, on l'opère, on ne l'opère pas, etc. Et elle a guéri après un pèlerinage, après un passage aux piscines. Elle vient régulièrement à Lourdes tous les ans. Elle est infirmière.
Vous la connaissez ?
Oui, oui, je la vois. Oui, oui, elle est sympathique au possible. Et elle est ravie de ça.
Mais c'est quoi la vie d'une miraculée ? Elle porte la bonne parole, si j'ose dire, ou elle raconte son histoire ?
Oui, ce sont des gens intéressants à entendre. À la dernière réunion du CMIL en novembre 2014...
Donc votre comité médical.
Oui, j'en avais invité trois, oui, de ces miraculés qui ont parlé d'elle. Et c'est très émouvant parce qu'elle raconte ce passage décisif où elles arrivent malades. Et c'est peut-être le soir même, c'est peut-être dans les jours suivants, tout d'un coup, elle voit disparaître leurs symptômes. Et il y a une espèce d'incrédulité, et puis il y a la confidence aux proches, mais c'est curieux, je ne souffre plus, etc. On voit là se dessiner l'évolution de la guérison. Oui.
Alors je voudrais qu'on termine peut-être par un mot pour tous ceux qui ne guérissent pas. Ces millions de gens qui viennent tous les ans, et peut-être ceux qui nous écoutent qui sont malades et qui se disent « je vais partir à Lourdes » en espérant guérir. Statistiquement, les cas sont très très peu nombreux. Est-ce que
bien sûr.
Pour vous, médecin, c'est pas difficile de revoir partir tous ces gens déçus de Lourdes ?
Bien sûr, bien sûr. Moi, comme médecin et comme croyant, ça me pose un problème parce que effectivement, il y a tout cet appel de souffrance qui n'a pas été satisfait, et je me dis, mais enfin, comment le Christ, qui est un visage de miséricorde et d'empathie, peut accepter ça. C'est l'éternel problème du mal, évidemment, que nous posons là et qu'on ne va pas résoudre en quelques minutes. Mais il y a une image qui est particulièrement difficile à soutenir, c'est la procession du Saint-Sacrement, où le Christ, donc, dans le Saint-Sacrement, fait le tour devant tous ces malades, et vous voyez, les médecins ont ce privilège un peu idiot de suivre immédiatement derrière l'Eucharistie. Et ce qui me met vraiment mal à l'aise, c'est ces regards de désir de tous ces gens qui regardent passer l'Eucharistie avec ce désir de guérir et qui ne sont pas guéris. Alors je me dis, mais est-ce que c'est pas impudique de montrer le Christ à ces gens qui ne les guérira pas ? Oui, dans une certaine mesure, mais de notre côté, il y a aussi peut-être un message d'espoir qui fait que la souffrance, elle peut être sublimée. C'est-à-dire, oui, ces gens ne sont pas guéris, mais ils vont repartir quand même avec une spiritualité. Ils vont donner sens à leur souffrance. Ils vont donner sens à leur vie, peut-être. Et ils pourront combattre ce mot horrible qu'on appelle la résignation, qui consiste à vivre en traînant son infirmité.
Et ça, c'est déjà un miracle.
Comme un boulet. C'est un peu un miracle, oui.
Eh bien, merci beaucoup. On termine là-dessus. À Lourdes, Dieu touche terre. C'est le titre de votre livre, François-Bernard Michel, publié chez Bayard. Et puis, j'ai une pensée, évidemment, pour mon grand-papa à moi, qui faisait le même métier que vous, le docteur Alphonse Olivieri, il y a quelques décennies, voilà, à Lourdes, au bureau des constatations médicales. Voilà, je ne peux pas empêcher de parler de lui. Restez avec nous juste après la pause. C'est un passionné de nature et d'animaux qui va rentrer là dans notre studio RTL. La sexualité des petites bêtes n'a pas de secret pour lui.
Et vous êtes mon petit miracle, Thomas.
Ça, c'est gentil.
Je comprends mieux.
Vous écoutez RTL.